Aujourd'hui, je vous propose de regarder l'exemple d'une femme qui a eu une vie ordinaire et puis aussi qui a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, on sait assez peu de choses. Le passage qui la concerne est assez court. Mais voilà, je pense qu'on peut y trouver des encouragements, des exemples aussi pour notre vie, pour notre quotidien. Et en tout cas, voilà, j'espère que ça va nous encourager chacune. Alors, je vous propose de regarder aujourd'hui un petit peu la personne d'Élisabeth. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Et puis, si vous voulez, ben, on va lire le passage. Alors, le passage, il est un peu long parce que il y a plusieurs événements dans ce passage-là. Mais je propose qu'on le lise tous ensemble. Et puis on pourra regarder un peu après ce qu'il y a et ce qu'on peut peut-être en tirer comme enseignement au travers de sa vie. Peut-être pour donner un peu de rythme, tu veux bien faire l'ange dans les passages qui vont. Donc je vais lire. Donc on est en Luc, évangile de Luc, chapitre 1. Et on va commencer à partir du verset 5. Et puis on coupera un petit peu des petits bouts, mais voilà, on va commencer à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Juste pour précision, à l'époque, il y avait 24 classes de sacrificateurs et il devait servir deux fois une semaine, deux fois par an. Et puis, il y avait un tirage au sort pour désigner le sacrificateur qui allait faire les offrandes de parfum. Et donc là, il se trouve que c'est Zacharie, et c'est vraiment un événement exceptionnel, hein, parce qu'il y avait beaucoup de sacrificateurs, donc être tiré au sort, c'était quasiment unique dans la vie d'un sacrificateur de pouvoir assumer cette fonction-là. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'offrande de parfum, ça symbolisait les prières de la nation. Donc on reprend à partir du verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit
« Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé.
Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit,
« Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. »
Ensuite, au verset 21, « Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put plus leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Et il leur faisait des signes, et il resta muet. » Alors juste une petite précision, l'ange Gabriel et le fait qu'un ange vienne parler, c'est un événement là aussi exceptionnel, parce qu'il y avait plus de paroles de la part du ciel, de messages venus du ciel depuis au moins 400 ans. À l'époque de Malachie. Donc c'est vraiment là aussi un événement exceptionnel. Et puis, quand l'ange Gabriel lui parle de l'enfant à venir, ça fait vraiment référence à des choses que les Juifs connaissaient, et notamment ce qui a été annoncé par Ésaïe en Ésaïe 40, et puis confirmé également par Malachie, c'est la notion d'un précurseur qui allait venir pour annoncer l'arrivée du Messie. Donc ça, c'est des choses qui étaient aussi que les Juifs, et notamment les sacrificateurs, en tout cas ceux qui connaissaient vraiment la parole, pouvaient connaître. Et puis juste un petit point rigolo, enfin, à voir au verset 19, mais on lui dit... non, l'ange lui dit, et puis Zacharie doute. Et voilà, parfois, on prie pour quelque chose, et puis on a le résultat de ce pourquoi on a prié, et en fait, là, on est super surpris. Alors voilà, on peut prier des années et être surpris malgré tout que Dieu accomplisse cette prière. Donc voilà, on va voir que pour Élisabeth, ça c'est très différent la façon dont ça s'est passé, mais en tout cas c'est rigolo que parfois on a du mal à accepter même qu'on ait le résultat de notre prière. Alors du coup, je reprends à partir du verset 23. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue ». Toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ah, pardon, c'était toi l'ange. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit,
ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin.
Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit,
« Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu.
Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une forte voix, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Alors après, il y a ce qu'on appelle le cantique de Marie, donc je vais passer ce passage-là. Mais voilà, c'est toute une reconnaissance de Marie, et on va reprendre au verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Alors, on va s'arrêter là pour la lecture. Donc, ce qu'on voit dans cette histoire, hein, c'est donc c'est une période où la venue du Messie est proche, parce qu'elle a été annoncée par des prophètes depuis des nombreux siècles. Et là, on voit ce couple de Zacharie et Élisabeth qui vivent dans les plateaux montagneux. Et ils sont sans enfants, ils sont des gens pieux. Lui, il est sacrificateur. Et ce qu'on sait, c'est que c'est des gens qui étaient pieux, qui marchaient vraiment dans le Seigneur. Et on sait aussi qu'ils n'avaient pas d'enfants et qu'elle était stérile. Alors, il faut voir qu'à l'époque, pour les Juifs, avoir un enfant, c'était vraiment... c'était une grâce, c'était aussi une façon d'accomplir la promesse qui a été faite à Abraham, d'agrandir la postérité d'Abraham. Et du coup, ne pas en avoir, être stérile, c'était une forme de malédiction. Donc, c'était quand même très, très mal vu. Et finalement, voilà, Dieu fait éclater sa gloire. Il y a la naissance de ce fils. Et puis voilà, Jean-Baptiste qui va annoncer la venue du Messie, qui va préparer le terrain. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde quelques petits éléments moi, que j'ai trouvé intéressants en étudiant le passage sur la vie d'Élisabeth et peut-être pour voir nous ce que ça peut aussi nous apporter dans notre quotidien. Et ce que je vous propose, c'est au début donc du passage, c'est plutôt de regarder son attitude vis-à-vis du regard des autres. Donc on sait que Élisabeth n'est pas stérile, elle peut pas avoir le privilège d'être enceinte. Et puis au lieu d'être soutenue ou d'être encouragée, parce que voilà, c'est une épreuve. En plus, on sait qu'elle est âgée, donc vraisemblablement, ça fait quand même des années qu'elle était sans enfant. Alors c'est toujours difficile de savoir ce qu'on entend par âgée, mais on peut penser que ça fait au moins 20 ou 30 ans qu'elle était en âge d'avoir des enfants et qu'elle n'en avait pas. Et en fait, c'est ce que je disais, dans la loi juive, le fait d'être stérile, c'était même vu comme un châtiment ou une punition, ou le fait qu'on ait fait quelque chose de mal, et du coup, Dieu pouvait punir par ce moyen-là. Et du coup, Élisabeth, elle subissait des moqueries, elle le dit hein, elle-même d'ailleurs, elle dit qu'elle vivait sous le regard des gens elle subissait le regard des gens qui se moquaient d'elle. Elle est même aussi décrite comme la stérile. Et pour autant, ce qu'on sait aussi, c'est malgré tout, le début du passage, c'est de nous dire que Élisabeth et Zacharie étaient pieux et qu'ils continuaient à respecter les commandements du Seigneur et qu'ils marchaient dans les lois du Seigneur. Et pour nous, on peut aussi avoir des choses dans notre vie qui sont pas, qui peuvent être un sujet de honte vis-à-vis des hommes, du monde. On peut, ça peut être des choses matérielles. On n'est pas très riche, on n'a pas une grande maison. Et ça peut être des choses de la vie. On n'est pas marié, on n'a pas d'enfants. Et on peut subir parfois des regards, des choses du monde, des gens. Qui sont pas toujours faciles à vivre et parfois ça nous définit, ça devient quelque chose qui nous habite. Et quand j'étais adolescente, j'ai eu beaucoup de critiques sur mon physique, beaucoup pendant longtemps, on s'est beaucoup moqué de mon physique et ça a duré longtemps. Et en fait, c'est vraiment resté une identité, même après l'adolescence. Il y avait toujours des mots, des noms qu'on avait pu me donner quand j'étais ado qui restaient. Et en fait, je trouve que ce qu'on voit, c'est que Élisabeth, elle vit pas dans le regard de Dieu, des hommes, mais elle vit sous le regard de Dieu. Et je pense que Dieu, il veut vraiment nous encourager en disant que notre identité, elle est en lui, elle est pas dans le regard des hommes. Elle est dans ce qu'on a acquis en lui, on a de la valeur à ses yeux. Et ça me fait penser, quand j'ai réfléchi à ça, je pensais à Marie-France, et qui souvent nous appelle les unes ou les autres les princesses. Princesse, ma princesse. Et la première fois que Marie-France m'a appelée ma princesse, je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça, c'est notre identité. C'est l'identité qu'on a. C'est pas le regard que les gens peuvent porter sur nous. Qui sont blessants parfois, qui peuvent être dévalorisants, mais c'est ce qu'on a en Dieu, et on a un Dieu qui est vraiment plein de compassion, qui est bienveillant à notre égard, et je pense qu'on peut s'encourager là-dedans. Donc Voilà, ce qu'on voit en plus dans la vie d'Élisabeth, c'est que voilà, elle vivait, gardait les yeux fixés sur Dieu, elle vivait dans son identité en lui. Et puis on voit aussi qu'elle fait preuve de patience. Alors au début du passage, c'est l'ange en fait qui dit à Zacharie, ta prière a été exaucée, au verset 13. Alors il s'adresse à Zacharie, on peut supposer que c'était vraisemblablement une prière commune, voilà, une prière conjointe du couple, et que c'était un motif de prière commun. Et parfois, nous, dans notre vie, on peut aussi prier des années pour quelque chose. Ça peut être un enfant, mais ça peut être un mariage, ça peut être une guérison, ça peut être des choses tout à fait valables, mais on n'a pas de réponse. Je ne vais pas vous dire pourquoi Dieu il accorde à certains et pas à d'autres, parce que j'en sais rien, parce que c'est sa souveraineté. Ce que je sais juste, c'est vraiment que Dieu, il nous aime et lui, il veut notre bien. Et on le répète souvent, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voilà, dans ce passage, là encore, on voit juste que ils avaient pas cet enfant, et pour autant, ils continuaient à observer d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances. Ils étaient juste devant Dieu. Et voilà, ils n'ont pas, comme on dirait aujourd'hui, ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils ont continué à s'accrocher à Dieu et à persévérer et dans leur vie avec Dieu. Et puis, ce qui est intéressant aussi, enfin, ce qu'on peut voir, c'est que ce temps d'attente qu'on peut nous vivre quand on est dans une épreuve, dans une souffrance, ça peut, la façon dont on le vit, ça peut aussi être un encouragement pour les autres. Ça peut être, on ne sait pas peut-être que là où habitait Élisabeth, il y avait peut-être une autre femme qui était stérile et qui n'était pas une sanction de quoi que ce soit. Et qui, malgré tout, ben, voyait une Élisabeth qui continuait à marcher avec Dieu, qui était fidèle à son mari, fidèle à son Dieu. Et c'était peut-être un encouragement aussi, un encouragement pour cette femme. Et voilà, je pense que ce qu'on peut vivre, notre attitude de cœur, ça peut être parfois un témoignage pour les autres. Et je me souviens de... Il y a une quinzaine d'années, quand j'allais souvent en Suisse, j'avais divers amis et j'avais un ami qui était un homme célibataire et vraisemblablement, enfin assurément pas par choix, mais du coup, un jour il a pris la décision d'acheter une maison, d'une grande maison, et puis d'avoir plusieurs chambres, et en fait il a mis à disposition ses chambres pour des jeunes de l'église, des jeunes hommes qui devaient quitter leurs parents pour faire leurs études. Et ils venaient s'installer chez lui. Et du coup, il a organisé toute cette maison autour de ce temps de communion avec ces jeunes hommes et tout. Il a trouvé d'autres choses finalement à faire qui n'étaient peut-être pas... c'est pas forcément ce qu'il avait projeté dans sa vie. Mais pour autant, ce temps-là, il a pu... l'exploiter, enfin, je ne sais pas si le terme est bon, mais pour autre chose, pour quelque chose avec Dieu et vraiment d'avoir un temps particulier avec Dieu. D'ailleurs, il y a dans le livre, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, les versets 4 à 5, ça nous dit, au sujet justement des épreuves, la tribulation ou l'épreuve, la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance. Mais l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors je suis pas en train de vous dire qu'on va forcément, que Dieu va nous accorder ce pourquoi on peut prier depuis des années. Ce que je peux juste vous dire, c'est que Dieu sera là dans ces moments de patience, d'attente, et que l'important, c'est de continuer à marcher avec lui parce que c'est lui qui va nous soutenir. Et quand j'ai étudié un peu sur cet aspect-là, j'ai trouvé un commentaire d'un pasteur, juste une petite phrase, mais je trouvais qu'elle était chouette. Il a dit « Ce que Dieu fait en vous lorsque vous attendez quelque chose est souvent plus important que ce que vous attendez. » Et voilà, je pense que ça aussi, c'est un encouragement pour nous. Et puis, si on regarde encore l'histoire d'Élisabeth par rapport à cette situation, ce qui est aussi très intéressant de noter, c'est que là, en l'occurrence, Élisabeth, elle a eu finalement, au bout d'un certain temps, une réponse à sa prière, mais elle l'a eu au bout de longtemps. Et en fait, Dieu, il fait vraiment les choses dans son temps, dans le temps qui est le bon moment. Pourquoi ? Parce qu'au moment où Élisabeth est enceinte, qu'est-ce qui se passe ? Il y a Marie, qui a quelques mois d'écart, est enceinte. Et finalement, cette situation-là, c'est aussi un encouragement pour Marie, qui va pouvoir, et quand elle va venir lui rendre visite, on peut vraiment supposer que Marie, elle a peut-être demandé des conseils. Puis toutes les deux, elles avaient eu une situation un peu atypique. Marie, elle va avoir un enfant sans avoir été mariée, sans avoir connu d'homme. Elisabeth, elle a un enfant alors qu'elle était stérile. Et voilà, c'est des choses qu'elles peuvent vivre ensemble. Et voilà, donc c'est aussi un encouragement, c'est que même si la réponse vient plus tard, elle vient forcément au bon moment, au temps de Dieu. Donc voilà, ça c'était aussi une attitude qui peut nous encourager. Et puis dans toute cette aventure, on voit encore un trait de caractère chez Elisabeth qui est impressionnant, qui est pas toujours évident. Moi j'ai parfois un peu de mal là-dedans, mais elle a beaucoup d'humilité. En fait, j'ai trouvé que on voit vraiment sa douceur, son cœur et son humilité. Déjà dans la réaction. Au verset 25, elle dit : c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand elle est enceinte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la première chose auquel elle pense, c'est de se dire : c'est pas une récompense à tout ce que j'ai fait, c'est pas une récompense à ma piété, c'est juste un sujet de grâce. Et là, c'est vraiment une forme d'humilité de constater que Dieu a agi de façon merveilleuse, comme ça, par amour, par grâce. Et voilà, je trouve que ça, c'est une attitude qui est encourageante et qui est un bel exemple. Et puis, ce qui peut être surprenant aussi, c'est que on voit au verset 20, au verset 24, elle se cacha pendant 5 mois. Elle se cacha pendant 5 mois. Et moi je me suis posé la question de me dire, voilà, c'est étonnant, pourquoi on se cache de quelque chose qu'on a tant attendu, on s'est moqué de nous, on a souffert de ça, et là elle pouvait sortir et dire à tout le monde, vous voyez bien, je suis enceinte, vous êtes tous trompés. Et en fait non, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reste dans le secret. Alors d'une, parce que vraisemblablement les 3 voire même les 5 premiers mois, hein, souvent ça se voit pas vraiment une femme enceinte, on voit pas les, il y a pas forcément de transformation physique, donc peut-être que elle aurait dû encore se justifier, elle aurait peut-être encore fait l'objet de moqueries, on leur a peut-être dit qu'elle était folle ou je sais pas. Donc elle a, par rapport à ça, elle se cache. Et puis aussi parce que c'était vraiment un temps qu'elle pouvait prendre avec Dieu pour être reconnaissante de la grâce que Dieu lui faisait dans sa vie. Et c'était pas de se dire qu'elle l'avait mérité, mais vraiment c'est un temps d'intimité. En plus, si on se souvient bien, Zacharie est toujours muet, donc ça devait quand même être très calme à la maison. Mais du coup, c'était vraiment un temps qu'elle pouvait avoir avec Dieu. Et pour nous, parfois, dans nos vies personnelles, on peut avoir des choses, on va vivre quelque chose avec Dieu d'exceptionnel qui va nous interpeller d'une façon très profonde. Et puis on veut le raconter, parfois on veut le raconter tout de suite, on veut dire tout de suite à quelqu'un ce qu'on a vécu. Et puis la personne réagit pas forcément, elle comprend pas, pour elle c'est soit insignifiant, soit elle voit pas ce que ça représente dans nos vies. Et je trouve que cette illustration, ça nous montre aussi que parfois il faut juste, voilà, vivre ce temps de transformation avec Dieu. Et en fait, c'est justement cette transformation qui va se refléter dans notre vie. Et les gens vont peut-être le voir 3-4 mois après, mais ils vont le voir, ils vont voir le caractère de Dieu, cette forme-là, cette évolution dans notre vie, ils vont la voir parce que nous, on aura pris le temps de vivre dans l'intimité avec Dieu sur ce qu'on vient de découvrir de lui, de ce qu'il a voulu nous faire comprendre. Et voilà, je pense que c'est aussi voilà, une façon de vivre dans l'humilité et dans l'intimité avec Dieu, c'est aussi de le laisser nous transformer complètement. Et puis, son humilité, on la voit aussi dans le fait qu'il n'y a pas du tout de jalousie à l'égard de Marie. Elle n'est pas du tout, puisque donc Marie vient, et puis elle comprend que Marie est la mère du Seigneur, et elle se dit pas du tout, en tout cas, on la voit pas du tout réagir de cette façon, en se disant, ouais, mais attends, moi, ça fait 30 ans ou 20 ans, je sais pas, que j'attends un enfant, ça aurait pu être moi la mère du Messie, j'aurais pu avoir quelque chose de... Non, elle réagit pas du tout comme ça, au contraire, elle est que dans la louange, dans la reconnaissance, dans la joie de savoir que Marie, elle attend son Seigneur. Et elle va certainement même l'aider, elles vont se conseiller. Et voilà. Et parfois, nous, dans notre vie, on peut être aussi jaloux de certaines choses, et même dans des domaines spirituels. Je vais être jaloux parce que elle est chef de la louange et que c'est un poste que j'aimerais bien avoir, parce qu'une telle est plus spirituelle, parce que un tel a une meilleure place dans l'église, par exemple. Mais moi, je suis pourtant, je suis née dans une famille chrétienne, ou je suis dans l'église depuis X années, donc je pourrais mériter d'avoir cette place-là. Et en fait, voilà, ce qu'on voit, c'est juste de l'humilité, accepter de reconnaître ce que les autres ont. Et ça me fait un peu penser à ce que nous a dit Pasteur Michel, c'était mercredi, sur 1 Corinthiens 3. En fait, on a déjà tout. Si une amie est plus spirituelle, bah tant mieux, c'est super, je vais profiter de toute sa, de tout ce qu'elle peut m'apporter, de tout ce qu'elle va pouvoir me conseiller dans sa spiritualité. Si une telle est capable d'animer un groupe de louanges et d'animer toute l'église avec cette adoration, et ben c'est une bénédiction. Et en fait, c'est juste ça, c'est profiter, puisqu'on a déjà tout, on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut, et justement Dieu nous donne le corps de Christ pour pouvoir se nourrir les uns des autres aussi, et je trouve que ça, c'est aussi une belle attitude dans la vie de, dans la vie d'Élisabeth. Donc voilà, sur l'humilité, je trouve que c'est exemplaire. Et puis on voit que cette humilité, ça lui permet aussi d'avoir du discernement et d'être à l'écoute des révélations de Dieu. Puisque on le voit, quand Marie vient lui rendre visite, elle le reconnaît tout de suite que c'est la mère du Seigneur. Elle lui dit au verset 43... « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Et ça commence quand on dit « Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. » Et là, ce qui est intéressant, c'est que le verbe « entendre », en grec, ça signifie « comprendre » dans le sens de percevoir quelque chose de ce qui est dit. Donc c'est vraiment une attention particulière qu'Élisabeth prête à cette salutation. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'Élisabeth, elle ne pouvait pas savoir que Marie était enceinte, elle ne pouvait pas savoir ce qui est en train de se passer dans la vie de Marie. Mais là, elle est vraiment à ce moment-là remplie du Saint-Esprit. Et l'expérience qu'elle peut vivre aussi du bébé qui bouge, c'est la seule qui peut le voir, qui peut le ressentir. C'est quelque chose de très personnel, c'est intime. Et je trouve que ça nous illustre aussi un peu, d'une certaine façon, comment le Saint-Esprit fonctionne. C'est que le Saint-Esprit, il peut faire des choses qui sont profondes, qui peuvent être parfois cachées aux yeux des autres, mais que nous, on va pouvoir saisir. Alors, c'est pas forcément un ressenti physiologique, mais ça peut être quelque chose parfois qu'on n'explique pas toujours. Ça se passe à l'intérieur. On a une transformation, quelque chose qui résonne en nous. Et voilà, je trouve que cette illustration, ça nous permet de voir que l'importance d'avoir une intimité avec Dieu pour pouvoir vivre des choses et être en communion avec lui. Et voilà, c'est pas juste une croyance intellectuelle, mais c'est aussi des choses qui sont intimes pour nous permettre de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Donc voilà, ça c'est encore un bel exemple. Et puis je vous propose de finir avec un dernier trait de caractère qu'on peut voir dans l'attitude d'Élisabeth. C'est son obéissance. Et ça, on le voit plutôt dans la dernière partie du passage, quand elle met au monde son fils. Et là, donc au huitième jour, c'est le moment de circoncire l'enfant, c'est la tradition juive. Et on lui donne un nom. Donc habituellement, les petits garçons, les aînés, avaient le nom du père ou du grand-père. Et donc c'est pour ça que pour tout le monde, c'était Zacharie. Mais là, Élisabeth, elle s'y oppose. Elle dit non, ce sera Jean. Et là, encore une fois, on peut voir qu'elle a eu le courage, finalement, d'aller à contre-courant, d'aller contre l'avis des autres, de ne pas vivre sous le regard des autres, de la tradition, mais de dire, non, son nom, c'est Jean. Alors, on ne sait pas exactement comment elle a su, vraisemblablement, si elle a une révélation ou si c'est par Zacharie, vraisemblablement, ce serait sans doute plutôt par Zacharie qui a pu communiquer avec les petites tablettes. Mais en tout cas, elle obéit, elle sait que c'est ça, que c'est le nom de cet enfant, c'est Zacharie, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Et là, elle ne vit pas devant les hommes, mais elle vit dans l'obéissance vis-à-vis du Seigneur. Et puis même, on peut dire, parce que probablement c'est Zacharie qui lui a communiqué, qu'elle vit aussi dans l'obéissance à l'égard de son mari. Et pourtant, lui, on l'a vu, il a douté, c'est ce qui l'a rendu muet. Et en même temps, elle se soumet à l'autorité de son mari, et elle sait que c'est ça, c'est ce qui convient, c'est le nom qui était prévu pour cet enfant. Et en plus, ça a de l'importance, ce nom, parce que le prénom de Zacharie, ça signifie « l'Éternel s'est souvenu », et le prénom de Jean, ça signifie « l'Éternel fait grâce ». Et c'est vraiment le début, c'est vraiment même dans son prénom, finalement, que Jean annonce l'arrivée du Messie, de Jésus, et de cette grâce qui va nous être accordée. Donc voilà, même pour un prénom, même pour quelque chose qui peut paraître un peu simple, voilà, même dans les détails, en fait, on voit que c'est important d'obéir à Dieu, et là, Élisabeth vraiment agit dans ce sens-là. Donc voilà, tout ce qu'on a pu voir sur Élisabeth, son humilité, son obéissance, son discernement, c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est des choses qu'on retrouve dans l'attitude de son fils, Jean-Baptiste. Donc on peut aussi penser que ce caractère qu'on peut voir là, dans ce temps-là, c'est vraisemblablement quelque chose qu'elle a continué à entretenir dans sa vie, dans l'éducation aussi qu'elle a pu donner à son fils. Et puis, on peut aussi considérer ce qui est advenu de son fils. C'est pas une fin très heureuse, hein, puisqu'il est mort assez jeune, à la trentaine, décapité. Mais voilà, elle l'a aussi laissé partir après tout ce qu'elle a enduré, vécu, et elle a laissé son fils suivre le chemin qui était prévu pour lui. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, on sait assez peu de choses sur Élisabeth. C'est le seul, sauf erreur, c'est le seul passage dans la Bible dans lequel on parle de cette femme. Elle avait une vie qui était assez simple, pas forcément facile, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle est restée vraiment fidèle à Dieu dans son quotidien. Ses épreuves face à la stérilité, mais aussi dans les grandes choses, elle est aussi restée fidèle à Dieu. Elle est restée fidèle quand elle est tombée enceinte, elle est restée fidèle quand Marie est venue lui rendre visite, elle est restée fidèle quand il a fallu donner un nom à cet enfant. Et voilà, juste pour nous, peut-être qu'on peut voir dans ce passage aussi quelques promesses de Dieu. Voilà, c'est le début d'année, alors c'est peut-être pas des grandes résolutions, mais je pense que c'est des certitudes qui nous font du bien, c'est que on a une identité qui est en Dieu. C'est lui qui nous donne notre identité. Et c'est pas le regard des hommes. Et Dieu est aussi, ce qu'on sait aussi, c'est que Dieu est en contrôle sur les choses. Il sait pourquoi il fait les choses et quand est-ce qu'il fait les choses. Et voilà, on a juste à reconnaître toutes les grâces que Dieu fait dans nos vies. Et ça me fait penser, alors pour celles qui l'ont vu, mais le diaporama qui a été diffusé à la soirée du 31, c'était un petit diaporama que Marlène avait fait avec plusieurs photos de différentes personnes de l'église, et c'était les gens qui expliquaient pourquoi ils étaient reconnaissants pour l'année 2020, alors qu'on n'arrête pas d'entendre des gens qui disent 2020 c'était pourri, c'est une année horrible, vivement que ça se termine. Alors bien sûr que c'était une année très particulière, et en même temps c'était aussi l'occasion de voir les grâces que Dieu a pu faire dans nos vies, même dans des années compliquées. Et voilà, je pense que c'est bien aussi de voir que Dieu nous fait des grâces en permanence. Et voilà, on a des temps entre sœurs qui nous permettent de partager des choses. On peut s'entretenir dans les choses de Dieu, du Saint-Esprit. Et ça, c'est aussi une grâce que Dieu nous fait. Et voilà, je trouve que c'est un bel encouragement aussi.